Salutations, mon nom est Sylvain Aubé, je nommerai pour vous l'archéologiste, dans lequel j'explore certains angles morts du métier d'archiviste et du monde des archives. Je suis aujourd'hui avec Louis Rastelli de ARCMTL, Archives Montréal. Louis participe depuis très longtemps à la scène musicale underground locale et a rapidement constaté un manque au niveau de la conservation dans ce domaine précis, ce qui l'a amené à créer son propre organisme. Je suis allé dans les bureaux d'Archives Montréal, où on trouve une quantité impressionnante de documents et beaucoup de pièces qui sont aujourd'hui uniques. Je lui ai demandé de me parler de son approche au niveau des archives et plus généralement de la démarche de son organisme. Un mot à propos du titre l'archivologiste. Je sais qu'on parle normalement d'archiviste ou encore d'archivistique, voire même d'archivologie. Le mot archivologiste n'étant pas dans mon dictionnaire, je voulais utiliser le mot ironiquement pour définir une pratique alternative ou non conventionnelle de l'archive. On écoute Louis nous parler d'ARCMTL, Archives Montréal, une entrevue réalisée en août 2025. Merci de me recevoir. On se connaît depuis longtemps, on s'est croisés souvent dans plein d'événements. Puis là, je fais un podcast sur les archives, autant pour ceux qui veulent étudier là-dedans, qui sont professionnels, mais qui connaissent peut-être moins le côté underground ou le côté culture. Que dans le fond, je vais les faire découvrir. Et puis, je suis curieux de voir l'archive d'Archives Montréal, où est-ce qu'elle se place dans...
Ouais, en fait, le vrai nom, c'est les archives d'ARCMTL.
Par rapport à ce que tu as fait.
Ouais, il y a déjà presque 20 ans, on a modifié le nom parce que c'est pas juste Montréal. Mm-hmm. Montréal, c'est un point de rencontre et de convergence de toutes sortes d'artistes, musiciens, des gens de passage, des étudiants qui sont ici quelques années, produisent, repartent. Ou évidemment, des gens de partout du Québec qui viennent à Montréal pour imprimer, lancer un livre ou faire partie d'un band quelques années. Et on a aussi nos festivals internationaux qui nous amènent un certain nombre de documents et matériels du même genre de milieu d'artistes indépendants, mais pas de Montréal. Donc, on est concentré sur la tâche de assurer une pérennité à la production culturelle et documentation éphémère de la ville de Montréal ici, mais du côté des collections artistiques et du réseau des artistes, c'est un peu plus international et au-delà de...
Puis là, dans la chronologie, c'était quoi le point de départ? C'était-tu plutôt comme le magazine Fish Piece? C'était-tu le distroboto?
Mais non, en fait, les origines étaient... Je peux dire que le vrai catalyse, c'était l'arrivée du Salon du livre anarchiste de Montréal. Donc, pour quelques années avant... Ça s'est lancé en 1997. Déjà à ce point-là, on était plusieurs éditeurs. Moi, j'avais sorti la revue Fish Piece. Je faisais aussi des petits livrets, des livres de mes propres écrits. Et à l'époque, il y avait des salons à Québec, à Ottawa, à Toronto. Donc, on était plusieurs qui se sont rencontrés pour partager des voitures. On louait, dans le temps, c'était Allo Stop, je pense. C'est ça, covoiturage pour aller à ces villes-là. Puis chaque fois qu'on venait vers Montréal, on chialait dans le char, mais Chris, on vient ici, puis il n'y a rien qui se passe ici, puis on va ailleurs, il y a toutes sortes d'événements, toutes sortes d'affaires. Mais ici, il n'y a rien, il manque de quoi. Puis on a commencé une série de rencontres pour voir. Après ça, arrive le Salon du livre anarchiste. Pouf, succès instantané. On commence à prendre des tables là, mais on n'était pas forcément des anarchistes. Rendu deuxième année, on était comme, à un moment donné, on va laisser place aux vrais anarchistes. Mais on se faufilait en tant que producteur de littérature artistique indépendant, avoir une place là. Mais disons que c'est là qu'a eu l'idée de monter un salon, un foire à nous. Il y avait aussi une problématique de tous les petits éditeurs. À l'époque, moi, il y avait 50 magasins, librairies, disquaires, où que j'amenais un par un par un des copies de ma magazine Fish Piece. On était plusieurs qui dans la même situation. On a eu l'idée de créer une sorte d'association d'artistes indépendants qui pourra partager la tâche de faire le tour des consignes de toutes les places des points de distribution et aussi monter une sorte de salon annuel ou quelque chose finalement.
Donc, c'était
l'exposing. Donc, en 1998, on a enregistré une association d'artistes indépendants Donc, au début, l'idée, c'était de desservir, d'avoir une sorte d'association d'artistes qui font leur propre production, puis de commencer à essayer de répondre à des besoins avec des projets collectifs qui pourraient aider ça. Séparément, durant les mêmes rencontres, on pensait tout qu'il faisait avoir une archive séparément. Comme, tant qu'à y être, on va organiser un autre organisme là, qui va archiver. Parce qu'en 98, on a témoigné de la disparition des années 80. Les cassettes, les disques indépendants, les fanzines, avec la fermeture de lieux comme Dutchies ou les quelques places qui avaient, qui étaient là dans les années 90, mais qui n'ont pas toffé jusqu'en 98.
Le Colisée du Livre.
On avait réalisé que, oh mon Dieu, c'est pas pour toujours que ces choses, productions locales que les personnes achètent vont traîner pour toujours dans les magasins, ils vont disparaître. Mais au moment d'aller incorporer ou de voir comment enregistrer une sorte d'association, on a trouvé que c'était un peu compliqué, donc on a décidé, écoute, on fera deux pour un. Version plus courte des origines. On était autant intéressés de trouver une façon d'archiver les fruits du milieu des artistes indépendants que de donner une sorte de structure pour pouvoir développer des projets collectifs. Et la raison qu'on essaie vraiment décidé de s'assurer qu'il y ait un volet archives, c'est qu'on commençait à être familier avec la BALQ et la Librairie nationale et la Librairie Archives nationales du Canada et du fait qu'ils n'acceptaient pas du travail anonyme, ils n'acceptaient pas des disques ou documents audio produits indépendamment, sans label ou sans distribution. Ils acceptaient très peu des revues, des fanzines, qu'il n'y ait pas de ISBN et ainsi de suite. Puis ils ne touchaient pas du tout ce qu'on appelle l'éphémère, comme des cartons d'invitation, des expos, cartons d'exposition d'art, des flyers, des affiches pour des concerts, des festivals. Zéro! Fait que là, on est comme, oh boy, il n'y a vraiment personne qui fait ça au niveau institutionnel. Puis c'est ça notre milieu, c'est la documentation du milieu, c'est toutes ces choses-là qu'eux autres ne collectionnent pas. Donc, écoute, pourquoi pas faire un mandat duel, promouvoir et préserver simultanément. Premier temps, c'était pour sauver du trouble de la paperasse puis d'avoir deux organismes à gérer. Mais finalement, c'était une formule gagnante de faire les deux en même temps parce qu'on a rapidement réalisé que ces deux mandats-là desservent la même communauté. Puis le mandat de promouvoir et organiser des événements nourrit énormément le côté archives, surtout quand on est en mesure de ramasser et conserver des trucs de nos propres événements.
C'est là que vous avez réussi à accumuler.
Ben c'est ça, dès le début. Puis ça n'a pas beaucoup changé. De côté, il y a eu une incorporation en 2007 et le changement de nom à ARC-MTL pour refléter un petit peu le fait que ce n'est pas strictement limité à notre ville. Mais le mandat de promouvoir et préserver simultanément n'a jamais changé. Et disons que c'est une formule gagnante.
Puis là, vous avez. Combien
de supposants? Ben, dans
des
le milieu,
milliers et des milliers.
Moi, dans le milieu d'archivistique, curieusement, ça se mesure en mètres. Combien de mètres d'étagères, de publications, de livres? Ben ouais, on parle de dizaines de milliers. Probablement 15 000 documents audio, quelques milliers audiovisuels, puis un bon 15 à 20 000 publications, livres d'artistes, revues, périodiques, livres.
Puis là, tu as des formats spéciaux qui sont peut-être pas dans toutes les bibliothèques. Ou c'est quoi vos formats?
Ayant un mandat, comme beaucoup, beaucoup des organismes qui se consacrent à préserver le milieu de l'art contemporain ou la culture et l'histoire moderne qu'on définit généralement d'après les années 50 ou à partir des années 60 à aujourd'hui. C'est un peu ça, notre époque, notre mandat. Et beaucoup d'archives avec un même... concentration sur l'art contemporain et ainsi de suite. On parle des années 1960 à aujourd'hui. Puis malheureusement, au niveau de documents audio et audiovisuels, tu peux imaginer le nombre de formats qui sont venus et qui sont disparus entre les années 1960 et aujourd'hui. Ça n'arrête pas. T'sais, on a quasiment plus de troubles avec des vidéocassettes des années 90, début 2000, que ceux des années 60-70. Ça veut dire que
on voit des bobines, on voit des mini-films.
On a juste sur le vidéo, il y a U-Matic, il y a Betacam, il y a Betamax, il y a VHS. On a Sony Videotape, c'est le côté audio, évidemment, des cassettes, des dates, des reel-to-reel. Des dates, c'est le plus urgent à conserver actuellement, en fait. Une cassette des années 70 peut toujours être jouée, mais la grande majorité des cassettes de dates, des audio tape, du début des années 90, sont tout simplement disparus. Tu peux pas récupérer ce qu'il y a dessus. Ça brise, puis c'est fini.
Fait que là, pour ceux qui connaissent moins ça, en fait, vous numérisez, mais j'imagine que pour des questions de droit, c'est pas disponible publiquement, donc c'est pour consultation.
Non, l'affaire, c'est que ces documents-là, année par année, mois par mois, ils se dégradent. Fait que quand on parle d'essayer de numériser le plus possible divers supports, c'est parce que si on ne le fait pas, ça va juste dégrader. Puis deuxièmement, pour accès, donc numérisation pour conservation, et pour accès aussi, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un arriver puis commencer à mettre des cassettes dans un lecteur de cassettes, puis ça jam, et ainsi de suite. Non, c'est fini. Puis la plupart des gens ne savent même pas comment faire jouer une cassette ou un VHS aujourd'hui. Ça prédate beaucoup des visiteurs qui sont là. Par la suite, évidemment, une fois numérisés, ils sont conservés, il y a des disques durs, il y a des backups sur des serveurs. On travaille actuellement on espère trouver une façon d'avoir plus d'accès pour les gens, même off-site, hors de l'archive, avec des accès contrôlés, par exemple, un mot de passe et des documents streaming seulement. Mais on ne peut pas juste tout mettre en ligne parce qu'il y a énormément de musiciens et aussi des photographes et des artistes. En premier temps, ils veulent pas que l'intelligence artificielle pogne tout ce qu'ils font, parce que tout ce qu'on met en ligne risque de faire partie de ça. Ouais. Mais deuxièmement, c'est de garder le respect des producteurs. Que quelqu'un a vraiment besoin de copier, utiliser dans un livre, dans un film, dans un podcast. Mais on peut rassurer que, oui, les gens auront accès à ces matériels-là, mais en passant par le créateur, le détenteur des droits.
Ouais. Puis 20 ans plus tard, vous êtes des fois la dernière copie, des fois c'est impossible à trouver ailleurs, des fois...
Mais la grande majorité des documents audiovisuels qu'on numérise, c'est des documents uniques. Tu sais, c'est quelqu'un qui est allé avec un vidéocaméra puis qui a filmé un événement. Ou par exemple, un band qui a fait 10 copies d'un tape démo pour amener à quelques bars pour planifier une tournée, mais pas plus, tu sais, fait que... Ouais. Ouais, là aussi, c'est pas des choses qu'on peut juste...
Ouais, j'enchaîne une question. Du côté professionnel, avez-vous embarqué dans une norme ou y a-t-il comme une norme qui fit avec ce que vous faites ou c'est plutôt...
Mais heureusement, moi, j'ai aucun background. Je suis plus historien et ma formation et ma vie professionnelle étaient plus en architecture, ingénierie. Quelque chose, disons, complètement différent de ce qui est un centre d'archives. Mais comme j'étais toujours écrivain, romancier, chroniqueur pour des journaux, j'étais toujours très, très, très familier. Aussi animateur à la radio depuis les années 80. J'ai toujours fait partie assez proche du milieu des journalistes, des médias, des éditeurs, milieu du livre. Et dans ma vie personnelle, pas trop professionnelle, ayant édité une revue Fiche-Pisse et publié d'autres affaires. Bref, je connais assez bien le côté des... la production, puis l'édition, puis le milieu du livre et tout. Mais pas long après qu'on a réussi à s'installer dans ce lieu qu'on est actuellement, à peu près 20 ans, depuis 2005, on est dans le local. Pas long après, on a réussi à commencer à impliquer des gens formés en archivistique ou ce qu'on appelle science d'information aujourd'hui.
Les collaborateurs amènent
des façons de
faire qui sont plus partagées.
Le premier archiviste était... quelqu'un qui avait opéré un label de musique industrielle, expérimentale, qui est allé retourner à l'école pour avoir sa formation à McGill en archivistique, en premier temps pour savoir comment mieux archiver sa propre production et de tous les artistes qui ont passé par son label. Quand on a commencé ça, c'était une personne naturelle à s'embarquer. Et depuis, on a eu la bonne chance qu'à chaque année, on peut engager des... stagiaires qui ont besoin de faire un stage professionnel dans une bibliothèque ou un centre d'archives ou un musée. Et là, depuis une douzaine d'années, il y a une variété de programmes, des jobs d'emploi d'été, et aussi des bourses de projet qui nous permettent d'engager ou garder en staff au moins un archiviste professionnel pour gérer tout ça.
C'est positif. Une chose qui est positive, c'est que vous avez des trésors maintenant, fait que j'imagine qu'il y a des trésors un petit peu spéciaux.
Les trésors, ça veut dire que quand tu es là 20, 25 ans, tu peux pas prédire des choses qui a passé par nos projets ou qu'on a acquis. Par exemple, une cofondatrice d'Arc MTL, c'est l'artiste Julie Doucette. C'est un ami personnel que je connaissais des années 90 et qui s'est joint à nous, en partie parce qu'au début de l'archive, elle était plus connue comme BDiste, mais elle faisait un virage vers l'art imprimé, l'art abstrait, design graphique, art visuel. Et elle a très, très bien saisi, elle a fait partie de la formation de ArcMTL, puisqu'elle faisait partie de ceux qui sentaient le besoin pour ce genre de nouveaux organismes, de nouvelles structures. Elle ne voulait pas vendre ses nouvelles productions abstraites à des salons de BD. Ça fait que quelque chose comme Exposine, ça lui attachait vraiment beaucoup de faire partie de la création de ça. On avait aussi commencé le réseau Distroboto, en fait. Avant Exposine, c'est Distroboto. Quand je parlais d'une des idées qu'on avait, c'était une sorte de collectif pour aider à distribuer dans des points de vente notre production. Cette impulsion-là, ça s'est traduit en Distroboto. Mais la vraie réponse, c'est que ses premières productions qu'elle a faites pour Distroboto, puis dans cette époque, je viens juste d'en voir une à 150$, maison d'Ancan, là, fait que avec le temps, les choses, ou les premiers démos d'Arcade Fire, ou la première cassette de Godspeed.
C'est des trésors dans la collection. Puis, j'imagine qu'il y en a d'autres à l'international qui font ça comme en Europe, États-Unis, Europe.
Qu'est-ce qu'on s'est rendu? Il n'y en a pas tant que ça qui font autant de différentes activités de production, comme de promotion, comme nous, avec maintenant nos trois festivals, le réseau Distroboto, ainsi de suite. Mais on a réalisé assez rapidement, c'était en 2010 qu'on a été invité comme organisme d'aller en France pour produire une exposition sur les fanzines du Québec à la Fanzinothèque de Poitiers, puisque eux autres sont là depuis la fin des années 80.
Fait qu'eux sont spécialisés 100% fanzine.
Oui, mais en même temps, rendu là, on s'est rendu compte, eux autres, ils sont installés dans un gros complexe, un complexe industriel, classiquement européen comme projet, qui a été reconverti et offert à des organismes artistiques. Donc, il y a quand même leurs archives incluses, comme nous, des matériels audiovisuels, des affiches de concerts, et ils ont énormément d'activités autour d'eux autres. Fait que, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte depuis ce temps-là? Ça, c'est la première fois qu'on a rencontré un peu comme un frère, un confrère dans ce milieu. Et depuis les dernières années surtout, on se rend compte qu'on n'est pas le seul organisme qui a commencé assez modestement, localement, qui a fini par avoir pas juste, par exemple, l'archive de musique punk qui est indépendant, mais tout à coup, il y a aussi des affaires éphémères autour de documentation de la ville. Par exemple, notre journée du film de famille qu'on organise, c'est des archives et organismes semblables à la nôtre qui organisent ces événements-là un peu partout en Amérique du Nord. On peut appeler ça, ça commence à être professionnellement dans des conférences ou des colloques sur des archives. On est souvent invité comme exemple d'une archive communautaire. Et au début, je me demandais, c'est pas vraiment une communauté, c'est une grande ville et tout. Ça me rappelle de notre origine comme association pour desservir les besoins des artistes indépendants. Notre communauté, c'est les artistes indépendants.
Merci, je te remercie beaucoup, Louis, pour les archives. Donc, ça donne une bonne idée. Puis, ceux qui veulent voir dans les sites principaux, ArcMTL.
ArcMTL.org, c'est comme un peu notre site web de maison mère. Là. À partir de ça, il y a 7-8 sites web que tu peux découvrir.
Ah, Exposine, il y a Volume.
Exposine, Volume, Distroboto, Festival des arts imprimés. On a aussi un canal YouTube avec beaucoup de contenu, de trucs qu'on a numérisés et des collections de périodiques sur l'Internet Archive.
Voilà, c'était Louis Rastelli qui nous parlait d'Archives Montréal. Vous trouverez plus d'informations sur le site arcmtl.org. Notamment sur les différents projets que sont Distroboto, Volume et Exposine, entre autres. Contactez-nous sur le site archivologiste.org si vous souhaitez discuter du projet avec nous. C'était Sylvain Aubé, l'archivologiste.